Tout est parti de là, en fait. Les bases au niveau de la recherche sont nées des neurosciences, et derrière, on en a découlé plusieurs thématiques, hein, les neurosciences cognitives, les neurosciences applicables à la pédagogie, tout ce qui est aussi milieu de la santé. Enfin, après, les neurosciences se découlent en énormément de cas potentiels. Moi, j'ai choisi la neuropédagogie pour la partie apprentissage, formation, et derrière, les neurosciences cognitives pour la partie accompagnement, puisqu'on travaille avec de l'humain.
Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Lisa, comment ça va?
Bonjour Elliot, merci à vous.
Bah, merci. Alors on peut se tutoyer, hein. Je pense que ce sera plus tranquille. bien écoute, merci d'être présente avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer l'épisode par te présenter et présenter ce que tu fais, s'il te plaît?
Oui. Alors du coup, moi, mon activité, c'est d'être formatrice indépendante et coach en accompagnement professionnel et scolaire. Donc je travaille avec pas mal de cibles potentielles, que ce soit sur le côté formation ou accompagnement.
Ok, alors les cibles, les apprenants, les étudiants, tu travailles que avec des jeunes ou est-ce que tu travailles aussi avec des adultes?
Non, la plupart du temps avec des adultes, adultes en reconversion, adultes en formation, du milieu d'entreprise jusqu'au milieu de l'insertion professionnelle.
Ok, et alors, comment tu les aides? Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais avec eux?
Alors, en termes de formation, j'interviens sur plusieurs leviers de formation, donc tout ce qui concerne le secourisme et la sécurité incendie, donc là, on touche un peu plus au milieu de l'entreprise. Ensuite, j'interviens auprès des étudiants sur toutes les formations liées aux ressources humaines et à la communication. Et avec une petite particularité récente sur le milieu de la petite enfance, où j'interviens un petit peu plus sur la thématique des neurosciences.
Ok, super. Alors tu peux m'en dire un petit peu plus sur les neurosciences, comment tu es arrivé à toucher à ce sujet, parce que c'est quand même pas très commun pour une formatrice en général de parler de neurosciences directement.
Oui, en fait j'ai fait un second master en sciences de l'éducation qui avait une spécificité complémentaire axée sur le management capacitant. Donc tout ce qui était technique en fait, un petit peu axé sur les neurosciences et la compréhension de l'autre. Et du coup, ça m'a conduit directement aux neurosciences cognitives et comportementales, donc l'apprentissage de soi, l'apprentissage de l'autre, pour pouvoir derrière mieux travailler avec. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait une formation complémentaire de praticienne en neurosciences auprès de l'Institut Alpha de Montpellier. Et donc, du coup, aujourd'hui, autant sur l'aspect formation que sur l'aspect accompagnement individuel, j'utilise ces techniques-là pour pouvoir mieux comprendre la personne que j'ai en face de moi et mieux pouvoir travailler avec.
Alors quand tu dis ces techniques-là, c'est quoi les techniques que tu utilises? Qu'est-ce qui diffère par rapport à quand on n'utilise pas les neurosciences?
Les techniques, ça peut être des techniques pédagogiques, donc des façons de créer les contenus, les façons de les aborder, mais ça peut être aussi un petit peu plus axé sur de la personnalité, essayer de comprendre la personne qu'on a en face, tout simplement par du relationnel ou de l'échange informel ou formel d'ailleurs. Pour essayer de comprendre un petit peu dans quel état émotionnel il se situe, quel est son comportement qu'il a en face. Donc on est beaucoup sur de l'écoute, de l'observation et derrière potentiellement des questions pour apprendre à connaître la personne avant de travailler avec.
Et ça veut dire quoi? Tu as quelques exemples peut-être de questions? Si par exemple, là tu veux m'aider à me réorienter professionnellement, comment tu vas apprendre à me connaître?
Je travaille beaucoup sur l'état d'esprit, donc j'étudie la personne en termes de personnalité. Donc je lui pose beaucoup de questions sur ce qu'elle aime faire, ce qu'elle aime pas faire, sur de la projection, essayer de poser des questions à la personne de comment elle réagit, comment elle réagirait sur une situation dans le futur. En fait ici je travaille beaucoup sur le comportemental. Grosso modo. Donc c'est beaucoup de questions où je fais en sorte que la personne essaye de se projeter pour voir un petit peu quelle est l'attitude et potentiellement les mots qu'elle emploie derrière.
Ok, et donc par exemple, si j'emploie certains mots, ça va te donner certains signaux. Est-ce que tu as quelques exemples concrets?
Quelques exemples concrets. Je les mets en situation pratique, par exemple, si demain, alors je la pose souvent aux étudiants, notamment quand j'ai du coaching en orientation scolaire. Demain, par exemple, si tes parents ne te financent pas tes études, est-ce que ça pourrait avoir une influence sur ton choix d'orientation? Le oui ou le non traduit clairement s'il faut que j'inclue ou pas les parents dans cette démarche, traduit ou pas s'il y a des craintes au niveau de l'enfant, s'il y a déjà eu des conflits au niveau de ça, au niveau du cercle familial. Et du coup, bah, derrière, je vais aborder les choses avec la parentalité de façon totalement différente. C'est-à-dire que je vais aborder peut-être la problématique du financement des études en amont de l'orientation des parents. Et derrière l'étudiant, c'est pareil. Je vais prendre son cas un peu plus à l'inverse, en lui mentionnant et en l'aidant sur des axes de formation qui soient pas forcément coûteuses, ou en tout cas le rassurer sur cet aspect financier, que c'est pas à lui de s'en occuper. Donc en fait, je prends les questions un petit peu à l'envers et je travaille dans un bon sens finalement pour pouvoir répondre aux interrogations et aux craintes potentielles.
Ok, en fait c'est marrant parce que ça me fait pas mal penser à la recherche utilisateur. Tu vois, quand on crée un produit, on va poser pas mal de questions pour bien comprendre la problématique et éventuellement ensuite apporter des solutions plutôt que de se jeter sur les solutions.
C'est ça.
C'est quoi le rapport avec les neurosciences? Pourquoi on parle de neurosciences dans ce cas-là? Est-ce que c'est le fait de réfléchir? Qu'est-ce qui qualifie ça de neurosciences?
Parce que tout est parti de là, en fait. Les bases au niveau de la recherche sont nées des neurosciences, et derrière, on en a découlé plusieurs thématiques, hein, les neurosciences cognitives, les neurosciences applicables à la pédagogie, tout ce qui est aussi milieu de la santé. Enfin, après, les neurosciences se découlent en énormément de cas potentiels. Moi, j'ai choisi la neuropédagogie pour la partie apprentissage, formation, et derrière, les neurosciences cognitives pour la partie accompagnement, puisqu'on travaille avec de l'humain.
Ok,
Voilà.
et neuropédagogie,
Ouais.
ça veut dire quoi? Vraiment, ça veut dire que je vais utiliser le cerveau pour faire de la pédagogie? C'est
Ouais.
quoi la définition et comment tu l'appliques?
En fait, on étudie le fonctionnement du cerveau pour pouvoir l'adapter comment dire, aux techniques d'apprentissage pour les apprenants.
Alors, comment fonctionne notre cerveau? Qu'est-ce qui t'aide à faire en sorte que les personnes apprennent mieux?
Ah bah ça aussi, ça passe par une phase quand même de compréhension des personnes, puisqu'on n'apprend pas tous de la même façon. On le voit aussi quand on met des personnes sur un travail individuel à faire, on voit tout de suite comment ils démarrent. Il y a ceux qui démarrent bien en tête, il y a ceux qui démarrent par la lecture, il y a ceux qui démarrent tout de suite par des questionnements, un brouillon, etc. Et en fonction, bah, du coup, on adapte les différents concepts pédagogiques. Donc aujourd'hui, on en connaît, hein, avec l'andragogie, enfin voilà, il y a beaucoup de
Alors
techniques.
vas-y, je veux bien que tu détailles un petit peu. Qu'est-ce que tu vas faire, dans quelle situation? L'andragogie, c'est quoi? Pars du principe que je ne connais rien et explique-moi un petit peu.
Ouais, alors là, on part sur des définitions un peu. L'andragogie, c'est la science de la pratique de l'éducation des adultes. Donc c'est grosso modo tout l'argumentation de la construction pédagogique. C'est des pratiques en fait d'apprentissage, mais qui datent, mais qui sont néanmoins toujours utilisées. Aujourd'hui, on s'appuie sur la neuropédagogie. Donc la neuropédagogie, c'est l'apprentissage du fonctionnement du cerveau avec la partie construction pédagogique, donc ingénierie pédagogique. On a lié un petit peu ces deux thématiques pour pouvoir favoriser l'apprentissage, que ce soit pour l'adulte, mais aussi pour aujourd'hui, c'est en train d'arriver un petit peu sur les thématiques scolaires. Ici, c'est pour permettre aux personnes de mieux assimiler, mieux mémoriser et du coup mieux comprendre, et derrière de ressortir avec un retour sur investissement d'une formation qui soit quand même efficace. Donc,
Ok.
en fait, tout part de la construction de base du programme de formation et de l'étude du public qu'on aura en face. Donc, forcément, ça passe par de l'apprentissage expérientiel, ça passe aussi par. Voilà, on met en fait l'apprenant en acteur de sa formation et non pas plutôt spectateur ou à l'écoute de ce qu'on va bien pouvoir lui dire. Donc,
D'accord, donc ça veut dire que le programme, tu l'adaptes, tu le construis avec
Ouais.
l'apprenant. Tu pars quand même d'une trame de base où tu
tu dis je le construis vraiment avec lui, en général.
Pour respecter quand même les objectifs pédagogiques de la formation et pas sortir du cadre, oui, on l'adapte forcément, mais on garde quand même la thématique relationnelle en face. Les objectifs pédagogiques de la formation sont clairs et nets, et derrière, on vient adapter le public ou adapter la formation au public.
Voilà. Est-ce que tu penses que ce serait l'idéal de ne pas avoir de programme, c'est-à-dire si tu étais complètement libre, tu as personne qui te demande, qui te dit quoi faire dans aucun cas, est-ce que tu, si c'était possible de repartir de zéro à chaque fois, est-ce que tu le ferais ? Admettons que tu aies le temps pour le faire, est-ce que tu penses que ce serait une meilleure chose ou est-ce que c'est quand même mieux d'avoir un minimum de cadre ?
Ça dépend du formateur, j'ai envie de dire. Moi, j'ai un petit peu cette facilité à partir un peu dans tous les sens. Parce que je suis intéressée partout et que les gens m'intéressent aussi. Donc, j'aurais plutôt tendance, moi, à dévier et à vite sortir un peu du cadre et à dévier peut-être sur d'autres thématiques de formation. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est quelque chose qui serait le top du top pour un apprenant. D'avoir un formateur qui construit en direct, ouais, complètement.
Ok, super, intéressant. Peut-être qu'un jour, on arrivera à ça avec l'aide de l'IA qui nous permettra de construire le programme rapidement en live et pas perdre trop de temps et tout en ayant un petit cadre, qui sait.
On verra.
On verra. Et j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur un des points que tu as évoqué au début. Donc, tu accompagnes des enfants, des adultes. C'est quoi la différence entre les deux ? Est-ce que tu as une approche différente ? Est-ce que tu sens une sensibilité ? Enfin, je peux imaginer une sensibilité différente. Comment tu adaptes ton approche ?
Il y a une sensibilité différente par rapport à la problématique de base. Hein, sur de la reconversion professionnelle, on est vraiment sur des personnes qui savent dans quoi elles mettent les pieds et qui sont... qui sont aussi acteurs de leur parcours professionnel et du coup on est un peu plus dans un relationnel de confiance. Sur la partie orientation scolaire et professionnelle pour les étudiants, là je travaille un peu plus avec les parents. Donc on est sur une approche totalement différente, il faut que je prenne des pincettes par rapport aux parents déjà, d'apprécier un petit peu dans quel contexte l'étudiant se situe, et puis derrière de pouvoir aussi jongler avec un apprenant qui, par rapport à son évolution aussi au niveau du cerveau, peut être amené à avoir un avis un jour et changer d'avis 3 jours après. Donc il faut aussi pallier avec cette évolution neurologique et du coup aborder les choses différemment, plutôt à tatillon. Après, ce sont deux publics complètement différents, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup particulièrement toutes les personnes qui sont en reconversion pro. C'est des personnes qui sont riches aussi d'apprentissage, à l'inverse pour moi. Donc c'est hyper intéressant.
Pourquoi c'est particulièrement riche ?
Parce que c'est des personnes qui ont eu des parcours de vie déjà, qui ont du vécu, qui ont des histoires à raconter, qui se sont peut-être cassées la figure à certains moments, et qui du coup ont appris de ça. Donc du coup, c'est toujours des témoignages qui sont gratifiants pour moi, pour l'accompagnement, et c'est toujours des personnes qui, une fois qu'elles se sont trouvées, une fois qu'elles ont trouvé leur axe de reconversion, c'est des belles progressions derrière, c'est des beaux résultats.
Alors, on ne va pas donner le nom de la personne, évidemment, mais est-ce que tu saurais nous raconter une belle histoire, justement, de là où ça partait et jusqu'où ça est allé et comment, toi, tu l'as accompagné ?
Une belle histoire, il y en a eu, mais une belle histoire. Une jeune fille qui était totalement, au départ, pas forcément accompagnée dans son orientation scolaire par les parents, puisqu'ils n'étaient pas dedans, pas d'infos, etc. Elle s'est orientée sur des métiers qui sont de l'ordre de la vente, du commerce, etc. Et en fait, finalement, elle s'est retrouvée dans un projet de reconversion un peu bancal, dans le sens où il fallait l'aspect alimentaire et financier. Et en même temps, elle n'avait pas les moyens forcément de se financer une formation, d'aller... déjà un contexte difficile de prise en main, mais une personne qui n'avait aucun problème avec le fait de faire un 360 et de se remettre intégralement en question sur toute sa vie. Donc du coup, on démarre et on démarre l'accompagnement qui a duré quand même un peu plus de 6 mois.
Alors, c'est sur quelle fréquence tu la vois à ce moment-là, une fois par semaine, une fois par mois ?
Je fais en fonction des personnes et en fonction de leur disponibilité. En l'occurrence, elle avait un emploi à côté, donc c'était des rendez-vous à sa convenance. Donc j'adapte.
Donc ça donne quoi à peu près en général sur
là, je la voyais presque. Alors sur 6 mois, je la voyais presque 2 fois dans le mois.
D'accord.
Okay, on se voyait pas systématiquement, mais il y avait beaucoup de visio, beaucoup de, voilà, on sortait un peu de la période Covid.
Okay.
Donc, beaucoup de visio, beaucoup d'appels téléphoniques, de suivi, en fait, mais aussi, moi, okay. de travail aussi en interne. Et du coup, avec elle, j'ai emprunté la voie de l'enquête métier. Donc, j'ai fait appel un petit peu à mon réseau et je l'ai envoyée sur des créneaux où elle ne travaillait pas, en stage, enfin, en découverte professionnelle, pour lui montrer un petit peu ce que c'était, parce qu'elle n'était jamais sortie du contexte de la vente et pour elle, c'était complètement irréalisable d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et là, les enquêtes métiers se sont révélées complètement en adéquation avec ce qu'elle recherchait. Donc pour le coup, on est allé jusqu'au bout avec derrière un plan de financement, un plan de formation aussi adapté en fonction de ses moyens, en fonction du temps dont elle disposait. Enfin voilà. Et du coup, aujourd'hui, un an après, puisque oui, ça fait quand même un peu plus d'un an, aujourd'hui, elle est en poste dans un métier qu'elle a choisi et pour lequel on avait trouvé une thématique de reconversion.
C'est quoi le métier ? Qu'est-ce qu'elle a choisi ?
Et ben finalement, elle a choisi les ressources humaines, donc l'administration du personnel.
D'accord. Ok.
Voilà. Donc l'avantage, c'est que j'avais aussi un réseau pas mal là-dedans, donc j'ai pu l'orienter sur tout, mais elle a découvert tous les aspects professionnels, c'est-à-dire l'agence d'intérim, l'entreprise. Enfin voilà, je l'ai mis un peu dans tous les contextes RH pour qu'elle puisse vraiment cibler ce qui correspondait à ce qu'elle souhaitait.
D'accord, super intéressant. Et ça me fait penser à une boîte hein, qui est pas mal connue aujourd'hui, qui s'appelle My Job Glasses, qui va permettre à des étudiants notamment, alors peut-être des personnes en reconversion aussi, je ne sais pas, mais de prendre rendez-vous avec des professionnels en poste pour découvrir un poste. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'on ne voit pas assez, mais au final, c'est assez facile de contacter quelqu'un aujourd'hui, notamment même sur LinkedIn,
ouais.
Pour prendre une heure et on va avoir un échange assez riche en général, en une heure d'échange. C'est même d'ailleurs plus que nécessaire bien souvent pour comprendre déjà ce qu'il se passe d'un niveau global et beaucoup plus, avec beaucoup plus d'informations que juste regarder en ligne.
Ouais.
Je pense qu'on va surtout avoir les pour et les contre. Moi, c'est le truc que je vois à chaque fois. En ligne, on voit beaucoup de pour sur chaque métier. Peut-être un petit peu moins les contre. alors, dépendant du métier. Mais donc, je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de nuance. Et donc, si jamais vous êtes en reconversion, c'est vrai que contacter des personnes, c'est toujours très, très sympathique.
Ouais.
Et donc, c'est quelque chose, je vois, que tu as appliqué aussi de manière générale. Est-ce que pour aider à la reconversion, il y a d'autres activités que tu préconises? Si moi je veux me reconvertir, par exemple demain je me dis bah tiens, j'aimerais peut-être être développeur, j'ai échangé avec un développeur, ça semble m'intéresser, est-ce qu'il y a d'autres étapes ou est-ce que directement il faudrait que je pense à comment financer ma formation? Est-ce que tu vas reconfirmer quand même avec la personne que c'est bien la bonne chose et comment tu le fais?
Ouais, moi j'utilise des tests de personnalité hein, toujours, mais des tests D'accord. plus axés sur les neurosciences là pour le coup. C'est encore une fois pour apprendre à connaître la personne dans quel contexte.
Ce sont quels tests que tu utilises? T'as les noms peut-être?
Non, parce que c'est du test en fait qui est adaptable en fonction des publics. Donc en fait, en fonction de son histoire, je vais faire ressortir des questions que je pose pas potentiellement d'une personne à une autre. Donc là, je vais travailler un petit peu plus dans l'intimité de la personne. C'est-à-dire que je vais vraiment lui poser des questions qui ont peut-être rien à voir avec l'aspect professionnel.
Donc c'est un test que toi tu construis toi-même.
Oui.
Et tu le fais via un outil qui t'aide à analyser les réponses ou tu le fais toi-même?
Non, je le fais moi-même parce que c'est tellement aléatoire et tellement au compte-goutte que je peux pas. Enfin voilà, je m'attribue pas de trame de base. Comme ça aussi, ça cadre pas trop mon approche. Je trouve que ça me laisse aussi le libre arbitre de pouvoir partir un peu sur tous les aspects de découverte d'une personne. Donc c'est plutôt, pour moi c'est ce qui est efficace.
Tu laisses des questions ouvertes en général, c'est pas des oui ou non quoi, c'est plutôt parle-moi de ça.
Tu mets en situation, questions ouvertes, allez-y et j'écoute les réponses qui ressortent derrière. Après au niveau de l'orientation à proprement parler, j'utilise le test de Riasek, donc le test de Hollande. Où là on va c'est plutôt des questions axées, alors c'est des tests qui sont déjà préconçus hein, j'ai rien inventé là-dedans, mais j'utilise ce mode là c'est plus voir les choix de carrière, tout l'aspect psychologique, donc c'est des questions un peu plus axées sur l'orientation et encore une fois la personnalité de la personne. Donc, j'utilise ces thématiques-là. Et après, derrière, moi, j'aime bien aussi faire un petit peu de déplacement. C'est-à-dire que je vais aussi au salon avec les gens. Là, j'ai emmené il y a eu un salon Studirama sur Lyon. J'y suis allée avec une ribambelle d'étudiants que je suivais en coaching. Et du coup, je vais avec eux rencontrer les écoles, je vais avec eux prendre la température, voir un petit peu les étudiants, enfin, le discours qu'on leur dit, enfin, qu'on leur donne aussi au niveau de les présentations des écoles. Donc, non, je joue pas trop que sur l'aspect tarifaire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour financer la formation. Donc, non. J'essaye de varier un petit peu le potentiel.
Alors c'est super intéressant parce que c'est quand même assez, je pense, peu commun d'aller au salon directement avec les personnes qu'on coach. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ça? Est-ce que tu réalisais que les personnes que tu suivais ne le faisaient pas naturellement ou est-ce qu'il y a une autre raison? Ouais, c'est ça, ils avaient peur.
Il n'y a pas d'info en fait. Aujourd'hui, je trouve que dans le système scolaire, les étudiants sont très peu orientés ou mal orientés. On les oriente que sur les métiers pénuriques. Ou que sur les métiers où voilà, les métiers d'avocatie, de médecine.
Ouais, c'est gros salaire ou pénurie, quoi.
On les envoie beaucoup et on les fait beaucoup rêver. Moi, des fois, j'ai des étudiants qui arrivent et qui me disent, je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je m'en fous, je vais toucher 3000 euros.
D'accord.
Bon, voilà, donc faut aussi remettre les choses dans le contexte et de toute façon, aujourd'hui, on prône le master à 100%. Il y a beaucoup de chômeurs qui sortent et qui ont des masters. Donc aujourd'hui, voilà, je prône, j'ai pourtant deux masters, hein, mais je prône pas le master absolument. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de métiers qui ont besoin d'être valorisés et que les établissements d'enseignement ne valorisent pas forcément. Alors que y a du boulot et qu'avec la persévérance, ils arriveront à un salaire de 3000 euros en milieu de carrière. Donc voilà, moi je travaille un peu plus là-dessus et j'apporte en fait aux étudiants ce que moi j'ai peut-être moins eu à l'époque. D'accord. Où je me suis orientée. Voilà, donc j'accompagne au maximum parce que aujourd'hui il y a tellement de jeunes qui se cassent la figure par manque d'orientation, par manque d'accompagnement, par aussi manque d'informations de la part des institutions ou même de leurs parents. Hein. Des fois, les parents ne sont pas forcément au fait non plus de l'orientation scolaire, surtout avec les métiers qui évoluent et qui changent. Voilà, j'apporte en fait ce que moi j'aurais aimé avoir en termes d'orientation.
Donc c'est une petite revanche personnelle. Ça t'apporte beaucoup de satisfaction de faire ça? Ouais.
Complètement, ouais.
Ok. Donc peut-être qu'on peut recommander aussi ton métier si on aime aider les autres du coup.
Et bien mon métier de base, ben moi j'ai c'est le reflet finalement de ce que j'ai vécu aussi. Hein. J'ai un CV qui est assez j'ai commencé par la communication, ensuite je suis allée sur du RH, après le RH je suis allée sur des sciences de l'éduc et après les sciences de l'éduc je finis en neurosciences et aujourd'hui j'ai aussi une activité de pompier à côté donc je fais du secourisme. Les gens quand ils voient mon CV ça fait un panel assez conséquent, mais parce que justement ça a été le fruit d'une orientation un petit peu questionnée quoi, d'une orientation pas forcément cadrée au compte-gouttes. Donc forcément j'ai été testée de part et d'autre et aujourd'hui je me suis trouvée, mais c'est pas forcément le cas pour tous les étudiants. Et c'est dommage.
Si demain on te donnait les clés pour mettre en place tout dispositif que tu souhaites, t'as une baguette magique pour aider les étudiants à mieux se réorienter, ce serait quoi les 2-3 actions que tu entreprendrais?
Pour moi, c'est un parcours individualisé. Ça coûte, il faut du monde derrière, mais pour moi, c'est ce qui est primordial. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, après le Covid, combien il y a eu de reconversions professionnelles de gens qui se sont pris leur propre métier en pleine figure. On le voit complètement, quoi. Donc, pour moi, ce serait de vraiment faire de l'individuel. Et là, recommencer à zéro en partant de la personnalité de la personne qu'on est et non pas de la personne qu'on souhaite devenir.
Qu'est-ce qui fait pour toi, et je pense que je commence à dessiner un peu la réponse, mais qu'est-ce qui fait pour toi un bon métier pour une personne? Qu'est-ce qui fait que la personne va rester dans ce métier pendant peut-être décennies parce que tu l'as bien orienté? C'est quoi les petits éléments, ou les gros les éléments d'ailleurs, qui font que ça marche?
Pour moi, tant qu'on a envie de se lever le matin pour y aller, c'est qu'on est sur le bon métier.
Et, Et souvent, qu'est-ce qui fait, de ton point de vue, qu'on a envie de se lever le matin pour un métier? Parce qu'on voit des personnes qui sont malheureuses dans tous les métiers, que ce soit bien payé, pas bien payé. Ouais. Donc finalement, on voit que les gens ne sont pas au bon endroit.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui aient très envie de se lever ce matin et d'autres pas sur un même métier?
Alors après, bon, l'influence de la vie personnelle, bon, ok. Mais je trouve aussi le relationnel entre les gens. Aujourd'hui aussi, le style de management est en train d'être revu. Et pour avoir fait un peu du management, nous, on a cassé un petit peu les codes. Moi, dans l'apprentissage que j'ai du management, il n'y a plus de hiérarchie comme avant. On est sur du participatif, du consultatif, quelque chose de beaucoup plus fluide. Pour moi, ça, c'est aussi quelque chose qui favorise la motivation au travail aujourd'hui. C'est de pouvoir rendre les gens acteurs de leur métier, de leur quotidien et du coup de leur donner envie de venir, quoi. De se dire qu'ils servent à quelque chose et qu'ils sont pas qu'un pion dans une entreprise, quoi.
C'est ça, donc ok, donc une raison de venir se lever
ce
matin.
Une forme de reconnaissance aujourd'hui, il y a très peu.
Ouais.
On entend beaucoup ressortir l'axe de la reconnaissance, mais c'est vrai. Moi-même, j'ai été salariée avant d'être à mon compte. C'est hyper dévalorisant de se lever tous les matins, de faire le maximum et à la fin de l'année de jamais avoir une ne serait-ce qu'une remarque particulière où on ne demande pas à ce que les employeurs se mettent à genoux, hein, mais d'avoir une petite remarque qui fait du bien à la fin de l'année, de se dire qu'on a contribué à l'effort collectif. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui ça manque.
Et en plus, c'est gratuit pour les employeurs, donc il faudrait faire un peu plus, parce qu'il y a de la reconnaissance financière, c'est ça à quoi on va penser tout de suite à ça. Mais donc, de ce que tu me dis, c'est pas finalement ça qui va faire qu'on va rester dans un métier. Oui. Peut-être plus la reconnaissance, donc tu travailles bien fait, effectivement. Alors, si le travail est mal fait, c'est peut-être un autre sujet. C'est bien de le dire aussi, effectivement.
Ouais.
Donc, être plus transparent, ok. Ouais. Donc, avoir du respect, de l'autonomie, être plus collaboratif. Tu crois aux organisations horizontales sur des sociétés assez larges? Parce que sur une petite boîte de 5 ou 10 personnes, on peut le faire, mais est-ce que sur une boîte de 150 000 personnes comme Capgemini, on pourrait avoir quelque chose d'horizontal, ou est-ce que c'est compliqué? Parce que ça prendrait une autre forme.
C'est compliqué. Je pense que par service ou par secteur, ça peut-être être envisageable. Après, sur du gros groupe, c'est vrai que c'est compliqué parce que si on laisse, enfin, c'est comme tout, hein, on prend un enfant de 1 an, hein, on lui laisse le poignet, il prend le bras, hein. Donc, sur une grosse structure, c'est pareil, il y a ceux qui vont prendre ce qu'ils ont à prendre et ceux qui vont jouer le jeu. Donc, ça me paraît un peu plus compliqué, mais c'est pourquoi pas des thématiques projet à travailler, hein. De toute façon, on tend vers ça aujourd'hui.
Pour ceux qui nous écoutent, donc si vous êtes un petit organisme de formation, là vous avez trouvé une force face à une grande école de commerce qui embauche des centaines de formateurs. Non mais je pense qu'il faut le dire, c'est vrai qu'il y a de la force dans le fait d'être petit. C'est pas pour ça que, enfin, c'est une vraie force et on le voit assez souvent, et le service client aussi de l'autre côté, hein, c'est pas que en interne va se ressentir si on le fait bien. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut, sur lequel il faut appuyer, et c'est ce que tu confirmes. Donc de la collaboration et de la bienveillance de manière générale, j'imagine aussi.
Ouais.
Ok. Et écoute, sur ces bonnes paroles, ce que je te propose, c'est de passer aux questions de la fin, si c'est ok pour toi.
Ouais,
et on va commencer avec la première. La formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi?
Des nouvelles pratiques, des nouveaux concepts et de nouvelles pédagogies, j'espère.
Ok. Alors, est-ce que tu as une idée de nouvelles pédagogies, de concepts que tu aimerais voir? Est-ce qu'il y a des technologies là, qui arrivent, qui t'intéressent?
Alors moi, forcément, je vais pas vous vendre de l'IA ni de l'informatique ou du numérique. Moi, je prends plutôt la neuropédagogie. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Il y a de plus en plus de programmes. J'aimerais beaucoup travailler sur que ce soit beaucoup plus élargi, travailler sur la neuropédagogie, parce que pour moi, la formation, c'est aussi de la relation humaine et pas que du numérique.
Et c'est bien, et je pense que ça change un petit peu des points de vue qu'on a pu avoir dans ce podcast. Non, en réalité, on revient toujours même du côté technologique à l'humain. Hein. C'est toujours le message d'ailleurs qu'on
Moi, je suis encore un peu à l'ancienne. Je suis pas vieille pourtant, mais je suis encore à l'ancienne. J'aime bien le relationnel.
Alors, je vais quand même te poser la question. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu recommandes ou que tu utilises de temps à autre?
Non.
Non, pas du tout. C'est intéressant quand tu travailles. Est-ce que tu fais du coaching à distance ou que en présentiel?
Oui.
À distance.
Ouais.
Tu utilises quoi à distance? Tu utilises Zoom, tu utilises
Zoom, Meet, Teams, tous les outils un peu pratiques que les personnes ont aussi. On s'adapte aussi au public qu'on a en face. Moi, quand je leur demande d'installer déjà Zoom,
peut-être
une fois sur deux, on me dit c'est quoi ce truc.
D'accord. Ah oui, d'accord. Et donc tu n'utilises aucun autre outil, tu fais appel à que tes outils, je veux dire, en tout cas pas technologiques.
Les outils bonnes pratiques.
Les outils bonnes pratiques. Très bien. Ok. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a un média ou une personne que tu suis dans l'univers de la formation, quelqu'un qui que tu as envie de partager? Bah, vas-y.
Oui, Alexandre Antonienko, c'est un conférencier, coach et auteur en neurosciences qui a un centre de formation et de recherche près de Montpellier, donc qui s'appelle l'Institut Alpha. Je lui fais de la pub parce qu'il le mérite. C'est quelqu'un qui a eu un parcours aussi très atypique, qui a été salarié, qui a beaucoup souffert suite à un burn-out, et aujourd'hui il explose dans son milieu et dans les neurosciences. C'est lui aussi qui m'a formé sur tout ce qui est neurosciences cognitives et comportementales, et c'est vrai que c'est une vraie source d'inspiration parce qu'il reste accessible. Tout en diffusant du contenu, enfin voilà, il est pas dans une thématique commerciale, il est vraiment dans du partage de connaissances, d'apprentissage, et je trouve que c'est aussi une belle personne à proprement parler.
Génial, je pense qu'il sera content d'entendre ça. Est-ce que tu as un livre sur ta table de chevet?
Oui. Toujours très corporate, moi, hein. L'intelligence émotionnelle de Goleman. Voilà, donc c'est pas des livres, hein. On peut s'endormir un peu facilement devant quand on est un peu fatigué, mais c'est des livres qui font un peu cogiter et qui nous en apprennent toujours plus sur les sciences du cerveau. Donc voilà, je continue mon apprentissage personnel.
Super, pour rester toujours motivé et rester dans le même métier pendant un petit moment encore, de ce que je comprends. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver plutôt digitalement?
De partout, hein, Instagram, Facebook, et puis mon site internet aussi. Voilà.
Donc ton site internet qui est
Hexagone-FC, donc Hexagone Formation et Coaching sur la région de l'Ain et du Rhône. Donc voilà.
Super. Eh bien, écoute, Lisa, merci beaucoup d'être passée dans le podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer l'épisode?
Non, pas particulièrement. J'aime beaucoup ce format de podcast, en tout cas, et puis sur le milieu de la formation, c'est toujours très intéressant d'échanger. Donc merci à toi pour cette interview.
Merci à toi, très bonne journée, à la prochaine.
Merci, au revoir.
Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.